Je vous invite à lire avec moi le psaume numéro 22, quelques lignes. Dans les feuilles que nous vous avons remises, il y a les chants et une petite feuille séparée. C'est le psaume 22. On va régler beaucoup de choses, nous sommes là depuis un mois seulement. Et la porte, on va la régler pour qu'elle se retienne. Sinon, elle heurte le montant de la porte et il y a un peu de bruit qui nous réveille. Bon, mais on va améliorer tout pour que nous soyons et vous soyez très bien. Je fais donc la lecture de ce psaume 22. Psaume de David sur Biche de l'horreur, nous ne savons pas très bien ce que ça représente, mais écoutons la suite. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, c'est la parole des ennemis. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force est desséchée comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parlons donc d'un psaume qui a été écrit 1000 ans avant le Christ. À cette époque-là, Rome était un marécage. Paris n'existait pas. Rennes n'était rien que 2-3 maisons. Et ce psaume a été écrit pour annoncer la venue de Jésus et la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Qui parle dans ce psaume ? C'est d'abord David, roi de Jérusalem. Il est aux portes de la mort. Il est maigre à faire peur. Je pourrais compter tous mes os, dit-il. Il est entouré d'ennemis qui se moquent de lui, entouré de forces démoniaques que David compare à des lions. David est à l'extrémité de ses forces et il a le sentiment terrible, que Dieu l'a abandonné. Il ne dit jamais, David, que Dieu n'existe pas, mais que Dieu semble l'avoir abandonné. Mais qu'a-t-il, David, pour être si mal, maigre, souffrant? Est-ce une maladie? Je vais plutôt dire c'est une exécution. On est en train de faire mourir David, le roi. Mais est-ce seulement David qui parle dans ce psaume? Je pense que c'est le peuple juif qui parle aussi. Le peuple juif qui, dans ses persécutions, l'extermination de la Deuxième Guerre, pouvait dire et a dit les mêmes choses. « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Et je pense que c'est chacun de nous qui, un jour, peut-être dans notre vie, ne voyant pas d'issue, nous avons dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qu'ai-je fait de mal ?» Et dans ce psaume, c'est aussi Jésus qui parle. Dans les heures de la croix, dans les heures de Pâques. Mais le premier qui parle, c'est David. David qui est épuisé et qui appelle Dieu jour et nuit. Nous avons dans la vie des temps où l'on se réveille des amusements pour prier Dieu, parce que ça va mal. Et David prie jour et nuit. Et Dieu semble endormi, inactif. Il est silencieux devant les appels au secours de David. Le silence de Dieu est pesant. Nous ne voulons pas d'un Dieu qui dort, d'un Dieu en vacances, en voyage. On a l'impression, David avait l'impression, que Dieu ne voulait plus de lui. Que pense-t-il, Dieu, quand il ne parle pas, on ne sait rien de lui? Nous savons quelque chose parce qu'il parle. Mais David, lui, ne garde pas le silence. Il crie, il appelle le jour, la nuit. « Je crie, dit-il. » Le mot signifie « je rugis ». Le rugissement du lion, c'est-à-dire une plainte très forte. C'est comme s'il disait « Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mon rugissement ?» Vous savez, quand on ne sait plus prier avec des mots, tellement la vie nous accable, nous écrase, il y a toujours en nous un cri du cœur. Et ce cri du cœur est reçu par Dieu comme une prière. On ne sait plus faire des mots, on ne sait plus faire de la grammaire, mais on sait pleurer, appeler « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Malgré sa détresse et une absence apparente de Dieu, David dit quand même « Mon Dieu, mon Dieu ». Il tient à Dieu. Même si Dieu semble un peu loin, un peu indifférent. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il reste attaché à ce Dieu-là. Il ne dit pas « Tu n'existes plus ». Un jour, une dame m'a dit « Dieu existait, mais il n'existe plus. » Parce qu'il m'est arrivé ceci, cela. Donc on a rayé Dieu de la carte. Mais la question de David montre que David a la foi dans un Dieu qui se cache, un Dieu qui ne parle pas mais qui est présent. Quel contraste quand même, il le dit, entre ce Dieu qui l'a protégé quand il était dans le ventre de sa mère, il en a conscience, et le Dieu d'aujourd'hui qui semble le délaisser. Parfois, on se dit aussi, ah, autrefois j'étais croyant, autrefois je vivais, je priais, maintenant tout est fini. Comme si Dieu avait changé. David, dans cette question, ne pose pas de question sur ses fautes. Il ne dit pas, Seigneur, j'ai tout ça parce que j'ai péché avec ma voisine. Oui, il avait péché avec sa voisine. Enfin, la femme de son voisin, une femme qui avait un mari. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, je suis innocent, j'ai rien à me reprocher. David, dans ce psaume, expose seulement sa détresse. Je n'en peux plus. Ma force dessèche comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Il raconte à Dieu ce qu'il vit. À Dieu de voir, à Dieu d'agir. On n'apprend rien à Dieu, mais il faut se confier quand même. Il faut dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce que l'on souffre. David est entouré de gens malfaisants, mais il ne réclame pas la colère de Dieu sur ses ennemis. Il ne réclame pas la vengeance, il reste maître de lui-même. Il pense à lui, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce n'est pas une accusation contre Dieu. Il n'accuse pas Dieu, il ne demande pas des comptes à Dieu, il veut simplement un peu de lumière. Il veut simplement retrouver ses repères. Parce qu'il ne sent plus la protection de Dieu et ça fait place à l'ennemi. Et c'est vrai que quand Dieu n'est pas là, l'ennemi est là. Si le bien n'est pas là, le mal est toujours là. Alors David a besoin d'une réponse comme un repère sur sa route pour pouvoir attendre quand la vie fait mal, quand la vie oppresse. On a besoin d'une parole. Nous ne vivons pas sans parole. Les évangiles, c'est un chemin qui est tracé par des paroles pour dire voilà où tu es, voilà où tu vas, voilà où tu peux aller. Nous avons peut-être dit cette parole un jour dans notre vie, parce que nous avons une maladie. Nous avons été abandonnés par des êtres chers. Nous avons perdu des êtres chers. Et nous avons dit cette parole un jour, Dieu nous a abandonnés. Mais dans le psaume, c'est d'abord, premièrement, la parole de Jésus abandonné. Jésus à la croix, qui dira dans la langue de sa mère, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est de l'araméen, la langue de Jésus. On parle encore araméen du côté de la Syrie. Les Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu a mis cette parole dans le cœur de David comme pour annoncer d'avance la prière de Jésus. Et Jésus a repris la même prière. Mais Jésus connaissait tout le psaume et la suite du psaume nous montre que David a une foi inébranlable et ça a dû réconforter Jésus en repassant le psaume dans sa mémoire. Pourtant tu es là. En toi nos pères se confiaient. Ils n'étaient pas déçus. Les psaumes nous aident à garder confiance en Dieu quand la terre nous abandonne. Notre cri à nous, notre prière à nous, ce n'est pas de dire « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» mais c'est de dire « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » C'est la parole de l'apôtre Paul. « En toi se confiaient nos pères, dit-il, et ils n'étaient pas déçus, tu les délivrais, ils criaient et ils étaient sauvés. » David est à bout de force, mais il ne perd pas confiance, parce que ce Dieu qui est loin, il sait qu'il habite dans le temple de Jérusalem. Quand l'assemblée est là, quand elle chante, quand elle prie, Dieu est là. Alors si Dieu est là, Dieu peut faire quelque chose. Et si Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose de bien. En toi se confiaient nos pères. Ils se rappellent l'histoire du passé. Beaucoup de gens disent, « Oh, autrefois peut-être, mais maintenant non. » Autrefois, oui, Dieu a fait des choses, maintenant il ne fait plus rien. David regarde Dieu, le Dieu du passé, comme étant le Dieu d'aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, il le fait toujours. Ce qu'il est, il reste toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Quand je regarde la Bible, avec des histoires de 2000 ans, je me dis... Ainsi est mon Dieu. En lui, ils mettaient leur confiance, ils n'étaient pas déçus. Et David aurait été vraiment le premier déçu. Si quelqu'un met sa confiance en Dieu, il n'est jamais déçu. David aurait été peut-être le seul déçu, parce que Dieu est attentif à la prière des misérables. Dieu est attentif aux cris de votre cœur. C'est un Dieu éternel, on peut s'appuyer sur lui. David a une foi inébranlable dans le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de ses grands-parents. Aujourd'hui, dans le monde, il y a cette mentalité, tout ce qui est passé est ringard, démodé, c'est plus vrai aujourd'hui. Tout ce qui est passé, il faut le laisser dans le passé, il faut vivre autre chose. Le Dieu des Écritures reste fidèle. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de David est toujours avec nous. Dieu ne nous trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne change pas. On l'appelle, il nous dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais David, vous comprenez son tourment. Pourquoi c'est plus pareil aujourd'hui ? Pourquoi moi je suis là dans la détresse alors qu'on chante dans le temple la louange de Dieu, les grandeurs de Dieu? Et ça déteint sur lui la moquerie des autres. Il dit, et moi je suis un ver et non un homme, le méprisé du peuple, le rejeté de tous. Quand on est touché par la souffrance, on est parfois méprisé parce que les gens ne veulent pas entrer dans notre souffrance. Ils ont peur de notre souffrance. Alors, certains même méprisent les souffrants. Et pour les gens qui l'entouraient, David était un homme de rien, une épave repoussante. Mais à force de nous dire que nous ne sommes rien, on finit par le croire. Et David dit dans ce psaume, « Je suis un ver et non un homme. » Cela veut dire qu'il se considérait comme rien. Avant d'exterminer les Juifs, on leur mettait dans le cœur, ça a pris des mois, qu'ils n'étaient rien. Ils n'étaient pas faits pour vivre. Ils étaient faits pour être exterminés. À force de dire, David va dire « Je suis un ver », c'est-à-dire « Je n'ai pas de consistance, je n'ai pas de défense, Un ver, vous savez ce que c'est? On l'écrase dans la poussière sans état d'âme. On ne va pas pleurer parce qu'on a écrasé un ver de terre. On l'écrase sans le voir. On l'écrase, même parfois certains le font avec plaisir, comme si c'était pas un animal. En disant « je suis un ver », c'est-à-dire « je ne vaux rien pour les gens ». On foule ma vie comme une quantité négligeable. On m'humilie. Mais quelle beauté la foi de David, un David humilié, écrasé, cette foi qui dit « mais Seigneur, tu es toujours avec moi ». Je pense à Jésus. On a dit de lui dans la Bible, il était le méprisé. On détournait de lui le regard, tellement il était défiguré aux heures de la croix. On faisait de lui aucun cas. C'était l'homme de douleur. Et quand je lis le psaume, je vois David et je vois Jésus. Ils subissent la même souffrance. David est l'homme de douleur des psaumes. Jésus est l'homme de douleur de l'Évangile. Et David dit, ils ouvrent la bouche, ils ouvrent les lèvres, sans doute pour rire aux éclats, pour rire jusqu'aux oreilles, devant un homme qui se bat contre la mort, David. Et il hoche la tête, sans doute comme une moquerie avec une grimace. Toute la confiance de David est tournée en dérision. Comme s'il disait « ce que tu fais, ce que tu crois, ça ne vaut rien ». Il se moque en disant bon, « Dieu le sauvera, puisqu'il l'aime tant, puisqu'il est si près de Dieu, et que Dieu est si près de lui, Dieu le sauvera ». Et quand on entend ces paroles, le tentateur est à la porte. Et il nous dit dans notre cœur, « Et si c'était vrai, que Dieu ne me sauvera jamais, que Dieu n'a rien à faire de moi, et que je suis un ver, le tentateur frappe à la porte du roi David et de Jésus aussi, et de chacun de nous. Il est abandonné de tous, il est au fond de l'abîme, et il passe au... Jésus, je pense à Jésus maintenant, il passe devant la croix, beaucoup de gens, il y avait beaucoup de peuples qui étaient devant la croix, notamment les religieux, qui connaissaient par cœur le psaume 22. Les juifs connaissaient les psaumes par cœur. Et les religieux connaissaient ce psaume quand il dit « Dieu le sauvera puisqu'il l'aime ». Eh bien, mes amis, au pied de la croix, sans le vouloir, ils ont répété le psaume 22 en se mettant vraiment dans les ennemis de Jésus. Et ils ont dit, il s'est confié à Dieu, que le Seigneur le délivre maintenant puisqu'il l'aime. Ils se sont mis dans le personnage dont parle le psaume 22, le moqueur, le provocateur, le tentateur, sans le vouloir, sans le savoir. Ils ont répété le psaume 22. C'est une flèche qui atteint le Seigneur. Que Dieu le délivre. Et Dieu ne répond pas. Et Jésus ne répond pas. Et David ne répond pas. On ne vous a jamais dit ça? Que fait ton Dieu? Ah bon, ça ne va pas? Toi qui étais si croyante, comment ça se fait? T'as plus la foi? Ce sont des flèches, des défis qu'on lance à Dieu et Dieu qui ne répond pas. Dans le psaume 22, vous avez les 6 heures de la croix qui sont décrites avec les souffrances et les provocations. J'ai beaucoup aimé « Tu m'as fait sortir » ou « Tu m'as tiré du sein maternel ». Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. le sein maternel, le ventre maternel et l'enfance, c'est une extrême fragilité. Mais Dieu a protégé son Fils Jésus-Christ dans cette époque de la vie fragile, de la vie dans le ventre de la mère et de la petite enfance. Tu m'as tiré, tu m'as fait sortir. C'est Jésus qui parle aussi là. Tu m'as tiré, et les pères de l'Église ont dit, Dieu a tiré son Fils Jésus du sein maternel de la Vierge Marie pour le donner au monde. Comme pour dire, Jésus n'est pas venu naturellement, parce que ça devait être comme ça. C'est par une volonté de Dieu que Jésus est venu. Et même à sa naissance, Dieu prend son Fils et le tire, le prend, pour le donner au monde dès sa naissance. En parlant de Jésus, Dieu l'a mis en sûreté sur les mamelles, sur la poitrine de sa mère Marie. Dès la naissance, vous savez qu'il y a eu la recherche d'enfants pour les exterminer, la recherche d'enfants parce qu'Hérode s'est mis en colère. Dès sa naissance, Dieu a protégé son Fils. Dieu a confié son Fils à Marie. Quelle responsabilité! Dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. Il y avait une coutume autrefois, au temps de Jésus aussi, quand l'enfant arrivait, on plaçait l'enfant sur les genoux du père, en signe d'adoption. Le père, il faut bien qu'il fasse quelque chose quand même. Alors on mettait le petit nouveau-né sur ses genoux, comme pour dire, tu l'adoptes, tu en prends soin, c'est ton enfant, il est à toi. Ici, le père qui prend l'enfant sous sa protection, dans l'histoire de Jésus, c'est pas Joseph, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va prendre l'enfant et qui va veiller sur lui. Mais David pense à lui en disant, mais pour moi tu es un père, mon Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Alors que ton enfant est en danger, alors que ton enfant va mourir. Pourtant, tu m'as pris dès le ventre de ma mère en charge. Pourquoi tu ne réponds plus? Vous voyez toute l'histoire, Jésus, David et nous. David dit aussi dans ce psaume, une multitude de taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Pour David, ce sont les forces du mal. Pour David, ce sont les forces du diable qu'il compare à des taureaux puissants, forts, agressifs. Taureaux de Bazan, côté de la Galilée. Ces taureaux qui foulent leur victime, qui, la tête baissée, foncent et la roulent au sol. Il a l'impression que des taureaux sont contre lui et le bousculent, le projettent par terre et le roulent et continuent et n'arrêtent pas. Ce sont des forces aveugles, sans sentiment, sans pitié. On ne peut rien faire. Contre des événements, des charges de la puissance du mal. Ils y sont comme des lions. Le lion, quand il voit une proie, il ne quitte pas sa proie des yeux une seconde. Il court dans la savane. Quand il voit l'antilope qui court, il ne la quitte pas des yeux une seconde. Et il se jette sur elle avec sa gueule grande ouverte pour la broyer, la déchirer. Et David compare cette force satanique qui semble se jeter sur lui à un lion impitoyable qui le harcèle, qui l'entoure, le bouscule, le détruit, le dévore. Nous avons connu ça dans notre vie. Des temps où l'on ne tient rien dans les événements qui nous bousculent, dans la maladie qui nous terrasse, dans le chagrin qui nous lamine le cœur. On ne peut rien faire, rien. Sentiment d'être agressé jour et nuit, en permanence, par le mal. Jésus a connu cela dans le désert, à la croix, constamment. Il a été agressé, moqué, méprisé. Et il dit encore, David, et je pense à lui, je pense à Jésus, « Je me répands comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire qui fond à l'intérieur de moi. » David, épuisé, mais je pense toujours à Jésus, il reprend les mots de la mort. Il y a des paroles qui sont les paroles de la mort. Il les reprend pour lui pour dire que sa vie s'en va comme de l'eau. L'eau qui rentre en terre et qu'on ne peut jamais récupérer. Cette eau représente sa force, sa vie. Sa vie qui s'écoule, qui rentre dans le sable et qui ne reviendra jamais. Et il se dit, ma vie, elle coule comme de l'eau, je ne peux plus la retenir. Tous mes os se séparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus rien ne tient dans son corps. Malade partout, mal partout. Rien en lui semble vigoureux. Il est dans un état de prostration. David et Jésus, les deux. Maintenant, c'est les deux. Son esprit, sa volonté, sa vigueur morale est comme de la cire qui fond. La cire qui fond dans la chaleur du soleil. Autrement dit, son esprit est inerte, sans vigueur, complètement défait. Plus de volonté, plus de joie, plus de courage, plus le goût de vivre, plus le goût de manger. Plus rien qui retienne à la vie. Voilà David. Voilà Jésus. Peut-être aussi nous-mêmes. Et quand je lis ces textes, je pense que là, j'ai devant moi la description des crucifiés. Ma vie s'écoule comme de l'eau. Plus rien ne tient. Mes os se disloquent. J'ai la description de Jésus flagellé. De Jésus crucifié. Il dit à la fin, ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. C'était la prière de Jésus sur la croix. J'ai soif. Je ne sais pas ce que c'est que la soif, je la calme très vite. Toujours quelque part un verre d'eau qui me calme ma soif. La soif, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Pas nous, pas très bien. Pour boire un peu d'eau, on aurait donné à une certaine époque des diamants, de l'or, toute sa fortune pour un verre d'eau. C'est terrible la soif. Et Jésus, et David ici, et Jésus, il dit, ma force dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Personne qui meurt de soif, leur bouche est comme une poterie en argile, toute desséchée. Ce qui fait qu'ils sont incapables de parler. Incapables d'élocution, incapables de déglutir, ils ne peuvent plus rien faire. Leur langue est collée, leur palais est collé. Tout est inerte. C'était la douleur des crucifiés. La première grande douleur, c'est qu'ils perdaient leur haut et disaient, pas tous, ils ne pouvaient plus dire un souffle, j'ai soif. Jésus a dit ça sur la croix. Nous appelant de nous de l'amour et du secours. Mais ce qui est étonnant quand il dit, David, tu me réduis, comme si Dieu avait donné de la force à ses ennemis pour l'entraîner jusqu'aux portes de la mort, dans la poussière de la mort. Autrefois, on disait à quelqu'un qui était mourant qu'il était assis dans la poussière de la mort. Pourquoi ? Parce que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et avant que les gens ferment les yeux, on disait, ils sont dans la poussière de la mort. C'est pas réjouissant. C'était pas très gentil. Hein. C'est comme cela qu'on parlait. Regardez David, comme il représente bien. Il n'a pas vécu ça, David, tout à fait. Il n'a pas été à cette extrémité. Jésus a été à cette extrémité. Et ce verset, ils ont percé mes mains et mes pieds. Une bande, ils sont comme des chiens qui m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ces chiens représentent la mort qui ne nous lâche pas. En Orient, il y avait des chiens sauvages qui ne lâchaient jamais leur proie. Il ne fallait pas être mordu par eux. Il y avait autour de Jésus des moqueurs qui ne lâchaient pas Jésus. Ils l'insultaient, se moquaient, le provoquaient, l'injuriaient, le maudissaient. Ils n'arrêtaient pas. Comme des chiens. Et puis, ils ont percé mes mains et mes pieds. Comment David pouvait-il savoir qu'il y aurait plus tard, beaucoup plus tard, un empire qui s'appellerait Rome et qui aurait inventé un supplice qui n'existait pas à cette époque-là? Rome n'existait pas à cette époque. Qui aurait inventé un supplice qui s'appelle la crucifixion? Comment pouvait-il savoir? Il ne savait pas. Mais, inspiré par Dieu, il dit, pas en parlant de lui, il n'a pas connu ça, mais en parlant de Jésus, ils ont creusé mes mains. C'est le mot exact. Ils ont creusé mes mains, ils ont creusé mes pieds. Jésus a été percé. Et après Pâques, Thomas, l'apôtre, il dit, si je ne mets ma main dans la marque des clous, donc, on a cloué Jésus. D'habitude, on mettait des cordes, on les tenait attachés avec des cordes sur la croix, mais il y avait ce supplice en plus, réservé à quelques-uns. On les attachait avec des clous. David n'a pas connu ça. David n'a pas été percé par des clous. Il annonce la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pourrais compter tous mes os. Vous savez combien vous avez d'os ? Je pourrais compter tous mes os. C'est-à-dire, il fait le bilan de toutes les plaies qu'il endure devant la moquerie de tous. Il fait le bilan. Partout où il se tourne, ce n'est que souffrance, contrariété, difficulté, moquerie, abandon, silence, partout. Et les moqueurs qui le voient, eh bien, eux aussi comptent les points, ils comptent les plaies qu'ils lui donnent. Je pourrais compter tous mes os. Je pourrais compter toutes les blessures que je reçois de la part de mes ennemis. Ils se partagent mes vêtements. Oui, c'est encore les Romains, ça. Longtemps plus tard, quand on prenait quelqu'un et qu'on le condamnait, on se partageait les vêtements. On se partageait les vêtements des vaincus. Mais écoutez cette parole de David. Il tire au sort ma tunique. 1000 ans avant Jésus, comment David pouvait-il savoir que le Christ viendrait et qu'il aurait un vêtement qui s'appelle la tunique, qui était courant, un vêtement d'un seul tissu sans couture, et que les gardes romains ne veulent pas déchirer la belle tunique de Jésus, peut-être que sa mère Marie a fabriqué, et qu'ils vont la tirer au sort. Pourquoi c'est écrit? À quoi ça nous sert? Ça nous sert parce que Dieu semble nous dire « Je sais tout ce qui va arriver. Je ne suis surpris de rien. Je ne suis pas pris de court. Je sais ce qui va se passer. » Dieu sait ce qui va nous arriver. Dieu connaît d'avance la vie qui est devant nous. « Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, » il dit à la fin. « Ne t'éloigne pas, Seigneur, parce que je suis déjà dans la gueule du lion. Il est déjà en train de mourir. Le lion le dévore. La corne du buffle qui représente l'épée de la mort, la corne du buffle m'atteint, me transperce. Délivre-moi. » Littéralement, mot à mot, délivre mon unique. Mon unique quoi? Qu'est-ce que vous avez d'unique chez vous? Délivre mon unique. Vous avez une vie unique. Et Jésus, là, David et Jésus disent, délivre ma seule vie. Je n'ai qu'une vie. Je ne peux pas essayer, puis après vivre. C'est tout de suite là que je vis. Et ma vie, elle est précieuse pour moi et pour toi aussi. Délivre-la. Et Jésus dira en mourant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le psaume finit avec un repas, un banquet. Le psaume finit avec un grand repas. Tous les misérables, tous les pauvres, tous les hommes, les femmes vont se trouver réunis devant ce crucifié ressuscité. Vous le lirez chez vous la suite. Mais ce psaume nous montre que dans l'oppression, quelqu'un a partagé notre oppression, notre souffrance. C'est Jésus. Il a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait endurer afin, par amour, de nous délivrer et de nous ramener à Dieu. Je vais, avec vous, vous inviter à remettre votre vie entre les mains de Dieu. Là, c'est une histoire tragique. La vie de Jésus, la fin de sa vie, les dernières heures sont tragiques. Pourquoi? Il prend notre punition. Il règle le problème du péché avec Dieu. Il nous prend en charge, par amour, au prix de sa vie, pour nous amener dans la maison du Père. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, ma prière, ce n'est pas celle-ci. Seul Jésus a pu dire cette parole, vraiment. Personne ici n'est abandonné. Personne sur la terre n'est abandonné de Dieu, refusé par Dieu. La seule prière que nous pouvons faire, ce n'est pas « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais rien ne me séparera de l'amour de Dieu qu'il nous a montré dans le Christ Jésus. Amen. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, nous ne sommes pas trop loin pour toi. Nous ne sommes pas perdus si nous avons nos regards tournés vers la parole, le Christ, vers Dieu qui est notre Père et qui nous sauve. Nous ne pouvons comprendre un tel sacrifice de Jésus sur la croix, mais nous pouvons dire, ainsi Tu as pris en charge notre existence, avec ses faillites, ses détresses, ses solitudes. Et tout cela, tu l'as vécu sur la croix, afin de nous dire maintenant, je suis avec vous tous les jours. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu qui te fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons un avocat auprès de Dieu qui prie pour nous, qui nous défend, qui nous relève quand nous sommes tombés dans la boue. Cet avocat, ce défenseur, ce sauveur, c'est Jésus. Il a été tout en bas, très bas, afin de nous mener très haut avec lui. Il a connu la mort pour que jamais nous la connaissions, mais que nous soyons acceptés, recueillis dans les bras d'un Père à notre dernier jour. Garde-nous dans le chemin merveilleux, lumineux de Pâques. Si tu es ressuscité, c'est pour nous dire, vous vivrez comme moi, vous serez comme moi, vous serez avec moi, toujours, pour la durée des temps. Et toute larme sera essuyée, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus les taureaux de Bazan, la force qui se dessèche et la langue qui s'attache au palais. Il n'y aura plus de souffrance, mais la vie en abondance. Merci de toucher nos vies, nos enfants, nos maladies, nos dépressions, nos détresses. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais avec vous, mes amis, faire cette prière « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline ». C'est le chant numéro 19. On va se lever à notre place et regardez comme la lumière revient tout d'un coup. Le monde a commencé par la nuit et ensuite la lumière est venue. Le commencement de toute chose, c'est d'abord la nuit. Après vient la lumière. Là voilà. Je vous souhaite de repartir avec la lumière du Christ en vous.